Il est 20h sur Radio Campus Paris. Avant d'aller en soirée ce vendredi soir, votre rendez-vous tête de vainqueur, l'émission sport qui va vous faire suer depuis votre canapé.
Alors comme ça, tu es un champion olympique. C'est intéressant ça.
Oui, oui, il est là, oui. Très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur.
Finale du 80 mètres haies féminin aux Jeux universitaires mondiaux.
Cours, je te dis, mais cours! Mais qu'est-ce qui se passe?
Ah, chute, chute à l'arrière du peloton.
Cours, je te dis!
Tête de vainqueur, l'émission sport de Radio Campus Paris.
Mais pourquoi tu cours?
Un vendredi par mois.
Mais parce que tu cours!
20h.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le terrain de sport le plus sociétal des ondes françaises. Ce soir, on part dans les gradins, spectateurs, fans, ultra hooligans. Qui sont les supporters des tribunes françaises? La réponse dans cette émission avec notre invité, sociologue et ex-responsable du laboratoire de sociologie du sport à l'INSEP. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le sport et le football. Patrick Mignon, bonsoir. Et comme le mois dernier, une belle équipe de vainqueurs nous accompagne ce soir. Inconsciemment, il a le cœur vert et pourtant son cerveau l'a dirigé vers l'Olympique Lyonnais. On ne compte plus les photos de Jean-Michel Aulas accrochées sur son bureau. Erwan, bonsoir.
Bonsoir Thibaut, comment tu sais que j'ai tant de photos comme ça de Jean-Michel Aulas sur mon bureau?
Alors tu as tiré le portrait de Timothée Piron.
De Timothée Piron qui est un très vieil ami à moi qui est carté Bad Gun depuis de longues années. On s'est carté ensemble et je suis allé lui parler un peu des ultras, des supporters, des hooligans, un peu de tout ça.
Merci, on te retrouve tout à l'heure. Et puis la définition du sport pour lui, c'est s'allonger sur le sable fin de Copacabana avec une revue médicale en main. Guillaume nous emmènera dans la salle de massage ce soir.
Bonsoir.
Après avoir testé le derby roller le mois dernier, Anna est allée jouer avec un gros ballon. On parlera de kinball, aussi à l'aise avec un banc de montage qu'un ballon ovale. Mickaël nous parlera des sports étudiants en fin d'émission. Bonsoir.
Bonsoir.
Enfin, celle qui court aussi vite qu'Usain Bolt pour faire de bonnes affaires vestimentaires, c'est Camille, elle est avec nous.
Uniquement pour trouver d'aussi beaux chefs que les tiens, Thibaut, bonsoir.
Jusqu'à 20h, 21h, nos belles têtes de vainqueurs sont avec vous sur le 93.9.
C'est un match, un bon match de rugby. On parlait des 97% de taux de remplissage de ce stade de Mayol. Les places ne sont pas bon marché. Hein. La place la moins chère à Toulon, c'est 25 euros. Mais on remplit quand même parce que le spectacle de Toulon plaît au public.
Qui sait les plus forts?
Nous sommes ici dans le 8e des 21 virages de cette montée mythique qu'est l'Alpe d'Huez. Il y a des milliers de supporters sur le bord de la route. Nous avons croisé des Français, bien entendu, mais aussi des Belges, des Suédois, des Colombiens et beaucoup, beaucoup de maillots orange, des Hollandais. Vous le savez, le surnom de l'Alpe d'Huez, c'est la montagne des Hollandais.
L'ambiance a commencé à se tendre lorsqu'un groupe de supporters fend la foule. En rang serré, ceux que l'on surnomme les ultras, des supporters enregistrés comme violents par les policiers, défilent au milieu de la place, les bras levés. Les premières barrières commencent à voler.
Patrick Mignon, on vient d'entendre un petit paysage sonore des supporters et surtout des ultras. Hein. Quelle serait la définition d'un supporter ?
Bah, la définition, elle est assez simple. Il y a une équipe de football et on va la soutenir, parce que supporter en anglais, c'est soutenir. Et ça vient de l'anglais, comme beaucoup de choses dans le football. Donc voilà, on soutient une équipe.
C'est propre au football ?
Ah non, non, c'est pas propre au football. Le supporterisme, c'est un phénomène qui va avec le sport et qui, du sport, éventuellement, c'est un petit peu... élargi vers d'autres sphères. Aujourd'hui, on pourra parler de supporters de tel et tel homme politique. Bon, voilà. Le langage sportif a beaucoup envahi le langage courant, et notamment le langage politique. Mais voilà, non, c'est quand même le sport qui fait apparaître ce phénomène et qui apparaît toujours du côté français. C'est important de mettre en évidence ici éventuellement la différence de perception. Parce que du côté français, on est un pays qui a à part le vélo qui a été et la boxe qui ont été des très très grands sports populaires, le football n'a pas été un sport aussi populaire qu'il était en Angleterre, par exemple, dans l'entre-deux-guerres. Il est devenu, en fait, finalement, une date très très récente. Très récente. Ce qui veut dire que le supporterisme en France est toujours apparu comme quelque chose d'un petit peu bizarre, de voir ces gens qui vont au stade, qui se réunissent avant le match, qui vont dans les pubs, parce que c'est toujours le modèle anglais qui fonctionne, ouais. Et puis voilà, qui sont dans les tribunes, qui chantent, qui soutiennent leur équipe. Voilà, en France, c'est quelque chose qui est apparu comme ce qui devait être fait en France. Quand on parle des ultras, c'est quoi? C'est ceux qui ont voulu créer ça en France.
Quand vous dites c'est récent, c'est-à-dire c'est dans les années quoi, 80, 90?
Oui, pour moi, c'est à peu près ça. C'est-à-dire vous avez la... Je pense qu'on a une vague de jeunes qui vont voir, justement, qui vont chercher. On commence à avoir beaucoup de football international et on voit qu'il y a des ambiances qui sont super intéressantes dans certains pays. Et on voit un petit peu des gens qui vont chercher à voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les pays qui sont les pays phares à l'époque. Il y en a deux qui sont l'Angleterre et qui sont l'Espagne, un petit peu l'Allemagne aussi. On va voir ce qui se passe à l'endroit où on vit. L'endroit où on vit, ça dépend.
Donc pour vous, ça passe par l'international. Est-ce que c'est aussi parce qu'en France, on a du mal à s'attacher à une équipe, parce que pour être supporter, il faut qu'on s'identifie à une équipe, à un lieu, à une histoire, quelque chose. Est-ce qu'on a du mal en France à faire ça, selon vous?
On a du mal, on a pas de mal parce que les équipes existent. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que le paysage du football français, par exemple, s'est beaucoup transformé dans les années 60. C'est-à-dire que beaucoup de clubs qui étaient des clubs qui avaient une assise populaire dans des petites villes ont plus ou moins disparu, ont périclité dans les années 60. Il y a une grosse crise économique du football français. Crise de public, crise d'argent. Et en fait, ce football ne réapparaît en fait avec quelques équipes, notamment Saint-Étienne. Saint-Étienne est la première équipe. Accessoirement, il y aura Lens et il y aura Bastia qui vont créer comme ça un petit peu des mouvements aussi de mobilisation. Mais Saint-Étienne va être le premier parce qu'on aura une équipe de club qui va effectivement apparaître sur la scène internationale. Et du coup, le modèle qu'on pouvait avoir, qui était l'idée de Liverpool, de Manchester, de la Juventus, etc., va trouver en France un terrain avec Saint-Étienne. Et là, du coup, la mobilisation en France supporter va effectivement démarrer dans cette période milieu des années 70.
Il y a un facteur social aussi. Vous parliez de Lens, de Saint-Étienne. Ce sont des villes ouvrières.
Oui, c'est... Alors là, disons que c'est... Alors là, on est, pour un sociologue, c'est une question qui est très intéressante. Est-ce qu'on a effectivement des villes de football comme Lens et Saint-Étienne avec du supporterisme parce que ce sont des villes ouvrières et que la population ouvrière aime le football et va au football? Ou est-ce que c'est d'une façon parce que ces villes sont ouvrières qu'elles font penser aux villes anglaises, que du coup les supporters vont aussi pouvoir s'appuyer sur cette représentation du football populaire de Saint-Étienne ou de Lens pour pouvoir créer leur propre culture du supporterisme. Mais de fait, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des équipes qui aient un rapport avec la population telle qu'elle existe. Or, de fait, si on prend les villes qui ont une certaine stabilité, qui ont une stabilité footballistique et une stabilité économique, ce sont des villes qui ont généré des cultures du football plus fortes. Donc c'est le cas de Lens, le bassin minier, la culture minière et les joueurs issus de la mine qui jouent dans l'équipe de Lens. Dans le cas de Saint-Étienne, alors pas seulement des joueurs locaux, Herbin, il n'est pas mm-hmm. Saint-Étienne, hein. Herbin, il vient de Nice, mm-hmm. formé à Nice, il y en a un certain nombre comme ça, mais ce n'est pas grave. Et dans des villes qui, effectivement, dans les années 60-70, sont des villes qui sont solides économiquement. Après, mm-hmm. c'est autre chose.
Là, on parle beaucoup de football, donc du coup, on parle aussi d'international, mais j'imagine qu'il y a quand même, dans les années 60-70, vous en parliez, d'autres sports qui étaient très populaires au niveau local, au niveau du village. J'imagine, je sais pas, le rugby, le basket dans certaines parties de la France. C'est le même phénomène que le football pour vous, ou ça a des particularités qu'on connaît moins?
On connaît moins. Si on prend le basket, c'est intéressant, mais le basket, c'est un sport de petite ville. Voilà. Donc du coup, on aura Cholet, même Limoges, une petite ville à l'échelle urbanistique. Orthez. Bon. Mm-hmm. Là, c'est des gros bourgs.
Dans le Béarn, pour ceux qui connaissent.
À côté de Pau.
À côté de Pau. Maintenant, c'est pour Orthez. Voilà. Et le rugby, pareil. Le rugby, vous avez des foules dans les stades, mais les foules des stades, c'est à l'échelle de Dax ou de Mont-de-Marsan. Donc ça veut dire quelques dizaines de milliers de spectateurs qui remplissent un stade.
Donc du coup, voilà. C'est des stades plus grands pour le football, par exemple, où il y a la même masse de population qui vient, mais qu'au final, comme les stades sont plus grands, on se rend compte qu'il y a moins de monde.
C'est-à-dire que le football en France, les stades ont été longtemps assez disproportionnée par rapport au public. Si on prend le cas du, on parle du Parc des Princes, par exemple, bon, à une époque où naît dans le Parc des Princes le mouvement supporter ultra, Coupe de Boulogne, etc., le stade est à peine à moitié rempli. C'est-à-dire que le supporterisme, c'est un peu le même figure qu'en Angleterre. Le supporterisme tel qu'on le connaît, très actif, etc., très engagé, prend naissance parce que, d'une certaine manière, les tribunes sont vides et qu'il y a de la place à occuper. Donc c'est le cas du Parc des Princes, c'est le cas de Marseille, parce que Marseille est une ville de football, il y a des moments où Marseille, le stade était vide. C'était très très lié au résultat. Donc le stade est vide...
Comme au début de la saison d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est ça. Et en Angleterre, dans les années 50, les stades se vident parce que les gens regardent la télévision, etc. Il y a d'autres types de loisirs. Et donc du coup, les jeunes s'installent dans les stades alors qu'à l'époque, ils n'étaient qu'une partie du public. Ouais, c'est tout ça qui crée la dynamique supporter.
Vous avez parlé des ultras, justement. J'aimerais qu'on y revienne un peu. Par quoi se définit le mouvement ultra en France ? Dans le reportage d'introduction, tout à l'heure, on entendait la journaliste dire « ultra des supporters enregistrés comme violents par la police ». Oui. C'est un petit problème de définition, là, non ?
Oui, alors vous avez toujours des problèmes de définition. Là-dedans, c'est très intéressant pour ça. Non, si on prend le paysage du supporterisme, on sait comme ça un peu de baliser l'histoire, on dira voilà, que si vous voulez, quand vous êtes français, vous avez deux modèles à une époque qui s'offrent à vous. Soit vous allez regarder vers l'Angleterre, donc les stades bourrés, les écharpes, et puis tout le monde qui sait chanter les chansons quand il faut, voilà, et gros tout le stade. Et vous avez le modèle italien. Donc c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus spectaculaire, parce que là, il ne s'agit pas seulement d'être là et de chanter des trucs, mais c'est aussi de mettre des banderoles, de créer les tifos. Hein, c'est-à-dire
on appelle les supporters les tifosi.
Voilà, ça, le tifo vient effectivement de cet instrument qui exprime la ferveur des tifosi. Donc on a ces deux modèles. Hein. Et le modèle ultra en France va se développer parce que justement, c'est mon hypothèse. Hein. Bon, le modèle anglais est très difficile à tenir. Parce que le modèle anglais, il faut vraiment bien connaître le répertoire. Il faut vraiment bien connaître la culture du foot. Il faut qu'il y ait du monde pour reprendre les chants. En France, on chante très mal. On a appris à chanter, mais on chante très mal. Donc, ce qui veut dire que faire le Cop de Liverpool au Parc des Princes ou n'importe où, on ne peut pas.
Il raconte des vraies histoires en plus.
Voilà, hein, c'est ça. C'est une ville qui a une histoire, le foot a une histoire, le Paris Saint-Germain est tout neuf. Bon, voilà, il faut inventer l'histoire. Donc les ultras au Paris Saint-Germain vont inventer l'histoire d'un club. C'est ça les thématiques des ultras parisiens, c'est ça. Hein, c'est créons notre histoire, etc. C'est tout lié à cette histoire. Donc voilà, alors le modèle italien, il est mieux parce que vous organisez les choses. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous organisez, puis vous avez des choses spectaculaires qui sont effectivement les banderoles, les tifos, l'arrivation, le capot, toutes ces choses.
Mais écoutez, je vous propose de chanter non pas le Aux Armes, par exemple, des Marseillais, mais Electric Indigo. Et c'est signé The Paper Kids. On se retrouve juste après.
Trouble with my car.
C'était The Paper Kids, Electric Indigo. Il est 20h18 sur Radio Campus Paris.
La vache, 5 secondes de moi sur le même parcours qu'hier. Et j'ai pas forcé un Shelly Pépère.
Tête de vainqueur.
Ils ont fait deuxième à Grand-Montana, c'est ce qu'il a.
L'émission sport de Radio Campus Paris.
C'est fabuleux, je me tais, c'est trop beau.
Un vendredi par mois, 20h.
Patrick Mignon, nous avons évoqué les ultras juste avant la musique et justement Erwan vient de nous rejoindre. Alors tu es allé dresser un portrait d'un ultra.
Absolument Thibaut, je suis retourné à Lyon, je suis retourné à mes racines pour parler à un vieil ami à moi, on s'est écarté ensemble. Lui il est resté ultra, pas moi, et en grand passionné de tribune on a discuté de son vécu, de ce que c'est pour lui un ultra, du public de l'équipe de France, de beaucoup de choses et de ce qui différencie notamment l'ultra du hooligan.
Je m'appelle Timothée Piron et je suis supporter lyonnais, carté au COP Virage Nord depuis 2012, au stade Gerland anciennement et dans le nouveau stade depuis cette année. J'étais donc en tribune latérale avec mon père à l'époque. Hein, et je me rappelle parfois m'être désintéressé du match parce que je voyais ces milliers de personnes qui étaient à fond, qui faisaient un bruit monstre. Enfin, ça a été vraiment ma première expérience de tribune où j'ai vu une tribune face à moi et j'en suis tombé amoureux. J'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit, déjà à l'époque, plus tard je veux être là. Pourquoi Lyon ? Parce que c'était le club qui gagnait beaucoup, ça jouait magnifiquement bien, et c'était le club le plus près de chez moi, donc celui avec lequel je me rattachais le plus sur le plan de l'identité, on va dire. Donc voilà, c'est devenu assez vite mon club de cœur. Un ultra, c'est le mec qui va encourager son équipe à domicile et à l'extérieur quand il le peut. C'est le mec qui fait que le stade n'est pas est beaucoup plus intéressant qu'un court de tennis. C'est-à-dire que c'est le mec qui va mettre l'ambiance dans les stades. Il y a un côté populaire dans la culture ultra, un côté accessible, et c'est vrai que c'est pas forcément les gens les plus aisés financièrement qui sont des ultras. Il y a des exemples, Bordeaux, si je me rappelle bien, et Nice, aujourd'hui s'appelle la Tribune Populaire. Le groupe ultra principal de Nice s'appelle la Populaire Sud. Donc il y a vraiment l'identité populaire qui est marquée. Ouais. La différence entre hooligan et ultra, c'est vraiment déjà une différence culturelle et une différence dans le but. L'ultra va chercher à soutenir son équipe et à défendre ses couleurs, parfois coûte que coûte. Le hooligan, lui, voit plus la violence comme une fin. Je peux être considéré par la société comme un ultra, mais je sais que je ne suis pas capable d'être violent pour du football. Ça n'arrivera jamais. C'est moralement impensable.
Payet, frappe du pied gauche. Oh, l'étincelle.
J'ai l'impression que les gens qui vont voir l'équipe de France ne sont pas forcément ceux qui vont aller au stade pour voir un club. J'ai l'impression que ça touche des publics légèrement différents. Et dans ce public, on a du mal à retrouver ceux qui mettent l'ambiance d'habitude. Et parfois, quand je parle avec des potes de stade lyonnais, ils me disent que ouais, pour l'OL, ils feraient n'importe quoi. Ils seraient prêts à faire 1500 bornes en bagnole pour un match de Coupe de France. Je ressens pas le même engouement de ces mêmes personnes pour l'équipe de France. Si cette culture peut s'exporter dans d'autres sports, en ne synthétisant que les côtés positifs, moi je suis totalement pour. Faut voir que c'est des clubs qui sont omnisports en Grèce, en Turquie, le Panathinaikos par exemple, ils ont des équipes dans tous les sports. Et c'est vrai que ça fait parfois bizarre de voir des fumigènes dans un gymnase ou de voir des mecs se pointer avec la bâche du Gate 13, donc qui est le groupe principal du Panathinaikos, à un match de ping-pong. Après, je considère quand même que dans le football, il y a les ingrédients qui font que cette culture va trouver son expression la plus massive, parce que t'as pas le même attachement identitaire à une équipe de foot qu'à une équipe de hand ou de volley. Ouais, le retour des ultras au parc, clairement, c'est une très bonne chose. Un mec comme Edinson Cavani qui va passer de Naples au Parc des Princes aseptisé, il a dû voir fou. Au bout d'un moment, l'argent, c'est sympa. Mais dans le foot, il se passe plus que ça. Et quand tu vois les performances que sont capables de faire des équipes avec un grand public, le public peut te donner le supplément d'âme qui fait que tu vas arriver à te surpasser, à te transcender, à faire l'exploit. Quand t'as des mecs qui se transcendent en tribune, ça se sent sur le terrain.
J'aime beaucoup cette fin quand il y a des mecs qui se transcendent en tribune, ça se sent sur le terrain. On a beaucoup parlé, on a parlé notamment de Liverpool. Ceux qui mouillent vraiment le maillot. Autre chose dont on a discuté, c'est des interdictions de déplacement, puisque j'ai posé la question à Timothée de ce qu'il pensait des interdictions de déplacement et du fait que les pouvoirs publics bridaient éventuellement les clubs de supporters. Et finalement, sa réponse m'a un peu surpris, et je m'adresse à vous du coup pour rebondir là-dessus. Lui pense que même si on n'interdisait pas les supporters de se déplacer, on ne se déplacerait pas si nombreux que ça finalement à l'extérieur en France, comparé à ce qu'on peut voir en Allemagne ou en Italie.
Oui, je suis assez d'accord avec lui sur ce. Ça pose deux questions. La première question, c'est effectivement l'état de la culture du supporterisme en France, du supporterisme sérieux, si on veut, qui en Angleterre ou en Allemagne est sérieux, en gros, sur toutes les classes d'âge, toutes les catégories. Voilà, le supporter sérieux, il a 50 ans et c'est un père de famille, voilà, et c'est aussi bien un jeune de 16 ans qui est excité comme tout, aller au match, etc. Donc c'est ça, c'est la différence, il y a cette différence-là. Du coup, ça fait une masse de gens qui vont se déplacer totalement différentes. Mmh. Et deuxième point que je trouve dans cette question qui est intéressant, c'est en France, on a fait du supporterisme quelque chose de dangereux. Et en faisant quelque chose de dangereux, on l'a rendu aussi dangereux, par certains côtés.
On a provoqué un espèce de cercle.
On a exacerbé, d'une certaine façon, les tensions, notamment tensions avec, en raison des interdictions de déplacement, interdiction de s'exprimer dans les tribunes, etc., qui ont monté en épingle les hooligans, par exemple, considéré tous les ultras ou tous les supporters comme des hooligans. Et du coup, on a monté comme ça cette question supporter, comme si c'était un problème absolument monstrueux, devant lequel il fallait se mobiliser et prendre toutes les précautions. Voilà, et ça c'est aussi ça que ça évoque, je trouve, ces propos.
Justement, par rapport à ces interdictions de déplacement, il y a des associations de supporters qui se sont montées, notamment l'Association nationale des supporters et d'autres associations plus locales pour des clubs, qui défendent les droits des supporters. Justement, vous pouvez nous dire, c'est quoi le droit d'un supporter, justement ?
Ça, c'est une question qui est très très intéressante, parce que quand on prend, si on veut, en France, quand on posait la question des supporters il y a une vingtaine d'années au club, ils disaient, les supporters n'ont aucun droit, parce que le stade, il appartient à la ville, nous, on est gestionnaire du stade, on a l'équipe, et c'est nous qui mettons le pognon. Donc les supporters, ben, c'est leur billet, puis ils viennent, donc ils n'ont aucun droit. Voilà. Alors, les supporters, eux, réclamaient leurs droits. Pourquoi ? Parce qu'ils partaient de ce principe que, comme ils étaient vraiment ceux qui étaient présents et là tout le temps, ben, de certaine façon, ils devaient être récompensés pour cet investissement. Donc le droit, c'était le droit des gens qui participent, qui prennent partie au football et qui en font quelque chose d'intéressant. Et aussi parce qu'ils encouragent l'équipe, ils la poussent et c'est très bien. Donc, grosse bataille. Mais comme on a conseillé que les supporters... Parce que c'est vrai qu'en France, on a été très très marqué par le Heysel, même si ce n'était pas un phénomène français, et très marqué par le Paris Saint-Germain et ce qui s'est passé dans la foulée au Paris Saint-Germain avec les grandes proclamations de « on est des hooligans », etc. Et ça a fait très très peur, d'autant plus qu'il y a eu des incidents. Et du coup, ça a complètement bloqué en même temps cette réflexion, parce qu'on s'est dit « ben non, ils sont potentiellement dangereux, donc les droits, c'est qu'ils vont pouvoir avoir des droits pour pouvoir faire n'importe quoi ». Donc on bloque la situation, et puis on pensait... qu'en France, on attirerait les foules de gens très très calmes qui viendraient au stade, qui prendraient leurs billets et qui ne bougeraient pas parce qu'ils seraient contents du spectacle. Or, le problème, c'est que justement, ça ne s'est pas produit. Et c'est ça qui est intéressant au Paris Saint-Germain, c'est qu'effectivement, on réintroduit d'une certaine manière les ultras parce qu'on s'aperçoit qu'on peut avoir des stars à Paris, mais on peut avoir un public qui remplit plus ou moins, quand même, ça marche beaucoup mieux. Mais voilà, il manque quelque chose qui fait un grand club, c'est-à-dire un public fervent.
Et pourtant, de plus en plus, on a l'impression que les publics en France sont des publics de spectateurs qui viennent voir des stars.
Et ça, c'est le...
C'est le cas dans le rugby, on l'a vu à Toulon, oui. On le voit à Lyon aussi, au rugby, on le voit à Lyon dans le football.
Bien sûr, on le voit, parce que ça, c'est une façon, ce qui se passe, quand vous n'avez pas de culture de supporterisme fort... Si vous prenez... Bon, en Angleterre, ça s'est passé parce qu'il y a une très, très grosse répression du public à cause du hooligan.
Avec les hooligans,
beaucoup de techniques et de règlements pour
avec des prix exorbitants.
Voilà. Et en plus, le prix des places. Bon, mais sauf qu'en Angleterre, il y a, quand vous dites les prix montent de 50%, la file d'attente, elle est toujours là pour acheter les billets. Donc du coup, on peut faire ça parce que le stade est rempli. Vous faites ça en France, tout que vous coupez, à moins d'avoir une équipe star, ce qui a fait plus ou moins réussi le Paris Saint-Germain pendant un petit moment. Bon. donc voilà, j'ai un petit peu perdu le fil là. Mais,
on parle du public, de spectateurs.
Oui, voilà, c'est ça, des spectateurs, qui deviennent des spectateurs. Ben oui, oui, ça c'est effectivement l'offre qui est faite aux gens, c'est venez voir un spectacle aussi intéressant que le cinéma, que ceci, que cela. Vous allez être bien traité, vous aurez des parkings pour vous garer, vous pourrez manger au restaurant après, etc. C'est-à-dire, le modèle, bon, ce modèle-là, qui était le modèle américain, qui repose sur l'idée qu'on va générer un public et des recettes très importantes, ben, il va buter sur une chose, c'est les gens qui, effectivement, ont envie de passer du temps, et de s'investir, effectivement, dans le soutien d'équipe. Et ça suffit pas, Mais de fait, on a le rugby est caractéristique, ça. À la limite, peut-être presque plus que le foot.
C'est-à-dire caractéristique.
Bah, caractéristique, c'est-à-dire qu'effectivement, le rugby, faut bien voir son recrutement en termes de joueurs et de spectateurs. À une époque, c'était les petits villages du sud. Ok, bon, ça maintenant c'est fini parce que ces villages du sud, ils sont en complète décrépitude économique, donc démographique. Donc du coup, les joueurs de rugby, ils vont jouer dans les très grandes villes. Peut-être Toulouse, mais beaucoup Paris, beaucoup Lyon, etc. Bon. Dans des gros clubs, où il y a des grosses recettes. L'équipe de France de rugby, qui a été l'élément phare du développement du rugby, elle aussi était fondée sur cette culture des petites régions. Donc monter à Paris pour un match de rugby, ce public était un public de connaisseurs, etc. Quand la télévision, qui développe effectivement toute son offre, programme, etc., les sponsors vont changer le public. Le prix des places va augmenter. La culture du rugby local va un petit peu se diluer pour les raisons qu'on a dit de déclin économique. Et du coup, on va remplacer effectivement le public par ce qu'est l'autre public du rugby, à savoir les classes moyennes des grandes villes. Où là, c'est le rugby est un peu... Aller ouvrir le match des 5 nations ou une finale de coupe de championnat de France de rugby, c'est un peu statutaire. C'est-à-dire, ça fait partie des... Quand on est cadre, etc., ben on joue rugby ou ses enfants jouent rugby parce que c'est un sport, c'est pas le foot, c'est pas crapuleux comme le foot, donc etc. Bon, c'est quand même un peu le rugby, le judo, c'est un peu les mêmes genres de sport. C'est bon pour les enfants, c'est éducatif, c'est propre, c'est fair play, etc.
Une autre image.
Complètement une autre image. Donc du coup, on va aller au rugby, mais ce qui fait, c'est qu'on retire en même temps cette veine populaire, mais qui a disparu aussi, hein, des défaites. Hein, je veux dire, les Landais pure souche, ils n'existent plus. Je veux dire, enfin, ils sont devenus minoritaires dans le monde du rugby. Mais voilà, et ça change complètement, et ça donne effectivement des spectateurs qui ne vont pas comprendre les règles du rugby. Par exemple, on a vu ce cas complètement dingue, c'est-à-dire on va siffler le mec qui va tirer une pénalité. Oui. Alors que ça, en rugby, même le supporter le plus engagé, etc., il ne le fera jamais.
C'est pas les mêmes valeurs.
Voilà, hein, donc c'est ce genre de choses. Et là, on va avoir un côté bon, bêtement chauvin parce qu'on ne comprend pas les règles du jeu.
Alors, dans un stade, on a les tribunes, on a le terrain de sport, mais aussi les vestiaires dans lesquels on trouve la salle de massage.
Peut-être on mettrait un mec qui court et après on lui met un carré avec du sable.
Très sympathique.
Et s'il saute loin, c'est bon et tout.
Il a une belle tête de vainqueur.
Et justement, dans la salle de massage, on retrouve Guillaume. Tu nous expliques ce soir comment éviter les courbatures après le sport.
Mais oui, bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous expliquer comment éviter les courbatures du sport, aussi bien pour les sportifs du dimanche comme Thibaut, ou pour les sportifs aguerris comme moi. Voilà. Alors, il n'y a pas de recette miracle, il y a quand même quelques petites astuces. Donc j'appellerai ce soir aussi la chronique Les Astuces de Guigui. Voilà. Alors... Première astuce très importante, et ça tout le monde la connaît, qu'est-ce qu'il faut faire avant le sport ?
S'échauffer.
Bravo.
elle est forte.
C'est important de s'échauffer pour du coup éviter les douleurs après. Et dans tous les cas, il est indispensable de ne pas stopper son effort.
Indispensable,
oui, c'était mon accent qui revenait à la surface. Et de ne pas stopper son effort brusquement. Par exemple, si vous faites de la marche à pied comme Thibaut, il est conseillé de récupérer durant quelques minutes et de ralentir le rythme avant de s'arrêter totalement. Ah, deuxième astuce, celle-là va te plaire Thibaut, puisque c'est un massage pour se détendre. Et oui, parce qu'afin de détendre vos muscles et de stimuler la circulation sanguine, il faut s'accorder un petit massage. Alors avec une crème chauffante dont Thibaut a le secret, qui est le meilleur cas de figure, puisque la chaleur permet une récupération musculaire plus rapide. Ensuite, troisième astuce, et là Thibaut, tu vas adorer, puisque c'est un bon bain chaud pour soulager les douleurs. Seul ou accompagné, c'est votre choix. Mais ce n'est pas un secret, parce que la chaleur, elle permet de récupérer une récupération physique des muscles et donc de détendre et donc d'enlever les courbatures. Oui.
Et donc, éviter les courbatures. Oui.
Il est aussi indispensable, quatrième astuce, de boire beaucoup d'eau avant et après l'effort. Donc, durant 24 heures, avant, pendant et après l'effort, il faut boire énormément d'eau, 2 à 3 litres.
24 heures ?
Oui, 24 heures. Eh oui, donc 24 heures avant, pendant et 24 heures après.
Donc, tout le temps.
Tout le temps.
Bon, pour celui qui fait du sport tous les jours, en fait.
C'est du sport tous les jours. Mais en fait, ça permet aussi d'éliminer l'accumulation d'acide lactique, qui est justement responsable des fameuses courbatures. Et enfin, en dernier recours, et là encore, c'est quand vraiment la douleur est handicapante, comme Thibaut lors de sa dernière séance de marche à pied, vous avez tout ce qui est les antalgiques et les anti-inflammatoires qui permettent d'atténuer les courbatures, donc ibuprofène, paracétamol ou acide acétylsalicylique.
C'est des marques, ça ?
Non, c'est pas des marques, c'est des molécules actives, voilà. C'est fait exprès, c'est génial. Il ne faut pas qu'on dise que je suis sponsorisé par... Voilà. Mais par contre, je mettrai toujours en garde contre l'automédication. Voilà, on est d'accord ? Voilà.
Oui. Donc du coup, on t'appelle.
Du coup, vous m'appelez. J'ai encore le temps ou pas ?
Bah pour un petit quiz.
Un petit quiz, oui ! Voilà, attendez, je le cherche. C'est une organisation, tout ça. Alors, en pratiquant, alors vrai ou faux, en pratiquant une heure de sport intense par temps chaud, hein, on peut perdre jusqu'à un litre de sueur. Donc là, je dis à notre invité de participer, mais également à vous. Alors, hein, une heure de sport à temps chaud, c'est important, jusqu'à un litre de sueur.
Patrick Mignon, vous avez une petite idée ?
Je sais pas, j'ai sué, mais j'ai jamais calculé combien je perds.
Mal avec des seaux pour calculer. Mais...
Ça fait beaucoup, un litre.
Ça fait beaucoup, mais c'est possible,
mais
je pense.
Mais voilà,
ah, c'est vrai.
Eh bien, c'est faux. Parce que ce serait jusqu'à 3 litres.
Ah, d'accord.
C'est encore plus impressionnant. Ah, oui.
On l'a vu avec les marathons niens, notamment cet été, qui perdaient lors des Jeux Olympiques.
3 litres, justement. Et donc, du coup, vrai ou faux, la transpiration fait maigrir ?
Faux.
Non, c'est pas suffisant. Et puis on reconstitue parce qu'on boit. Alors, que vous dites, faut
boire. Voilà, il faut boire après. Donc, du coup,
exactement, parce que la transpiration ne correspond qu'à une perte d'eau. Elle ne fait pas maigrir, elle vous hydrate seulement. Et dans ce cas-là, buvez beaucoup d'eau et pas d'alcool, Thibaut.
C'est pas mon
genre. Voilà.
Merci Guillaume, restez avec nous. On continue de parler des supporters avec Patrick Mignon dans quelques minutes.
Looking at you from a freeway trailer. If you'd handled what I'd taken, separate loads, separate calls. No fine line, don't have to be a dead rat. Cause dead rat can go wrong. Oh, we could be friends. Be friends, put your head on my shoulders. I'm Francis, still dreaming of a glory, something new.
Oh,
Vous êtes dans Tête de vainqueur, l'émission sport de Radio Campus Paris. Vous venez d'écouter Friend and de Francis and the Light et Bon Iver. Et on continue de parler des supporters avec Patrick Mignon, sociologue du sport, et avec Camille.
Petite question un petit peu différente de ce qu'on a vu avant sur les ultras. Est-ce qu'il y a une nouvelle manière d'être supporter aujourd'hui, plus politisé, une manière d'être un peu militant contre le foot business, par exemple, de refuser le côté aseptisé des stades, des lieux oui. du sport?
Oui, alors il y a un côté dans le supporterisme, effectivement. Alors, le côté politique, il y en a un qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'effectivement, il y a une frange du supporterisme ultra hooligan qui a été politisée. À l'extrême droite, beaucoup, pendant toute une époque.
En France,
mais en Angleterre et en Allemagne, en Italie, en Espagne, enfin partout. Hein. Bon, ça, c'était effectivement une réalité qui a souvent été mise en avant pour définir essentiellement le supporterisme ou l'hooliganisme, bon, ce qui était de fait largement exagéré. Mais par contre, ce qui a un sens politique très très fort, c'est disons quelque chose qui relève de l'identité collective, notamment nationale. Voilà. Alors là, on parle peut-être pas nécessairement des clubs, mais quand même. Parce que pensez à la Yougoslavie, avant 1992, il y a les clubs croates, il y a les clubs serbes, et la guerre civile yougoslave qui va avoir lieu, elle se traduit dans la rivalité très forte entre les clubs croates et les clubs serbes. Voilà. Donc ça, c'est quand même des éléments, idem pour la situation Ukraine-Russie. Hein, quand l'Ukraine était dans l'URSS, et ben les clubs ukrainiens défendaient effectivement une certaine idée de l'identité collective. Donc il y a ce côté-là, celui qui effectivement qui met le supporterisme du côté politique. Maintenant, il y a un autre côté politique, et vous avez raison, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que c'est que le football est intéressant, parce qu'à la fois vous êtes anti-mondialisation et pro-mondialisation. Le foot n'a pas de sens s'il n'est pas mondial. Donc s'il n'y a pas ces échanges de joueurs, etc. Mais en même temps, vous êtes anti-mondialisation ou anti-marché généralisé, parce que c'est la loi du business, la loi du business qui va transformer le supporterisme le supporter en consommateur, qui va vouloir tirer le maximum des recettes, etc., qui va faire des affaires avec les joueurs au lieu plutôt de penser à constituer une équipe. Donc quelque chose qui a une sorte d'équilibre assez intéressant entre d'un côté le côté on a besoin du monde entier pour pouvoir jouer au foot et être supporter, sinon ça n'a pas de sens. Et en même temps, on veut aussi qu'il y ait quelque chose comme de l'identité locale qui ait un sens, parce que c'est le sens de la proximité. Voilà, donc du coup, ça a une résonance politique. Voilà.
Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre justement ce côté national, cette attache locale avec la diffusion plus générale des sports à la télévision, par exemple? On peut se prendre de passion pour un club qui est extrêmement loin de ses attaches personnelles ou géographiques.
Oui. Vous avez un très bel exemple, si vous avez vu le film de Ken Loach, où il y a le chinois de l'usine de basket là, qui exporte les baskets chez le gars de Newcastle et qui connaît par cœur le championnat anglais. Voilà. Bon, il y a phénomène de ce genre. On va s'attacher effectivement à des équipes qui sont loin. Les supporters de Liverpool ou d'Arsenal, par exemple en France, sont des gens...
une grosse communauté, oui.
Ouais, très très grosse. Parce que Arsenal a souvent...
Liverpool, par exemple, a un compte Liverpool France.
Bah oui. Mais
c'est
oui.
assez énorme quand
mais
même.
Oui. Mais parce que voilà, à l'époque où le supporter français se dit purée, il faut qu'on fasse. Enfin, l'amoureux du foot en France, le jeune amoureux, dit il faut faire quelque chose, le modèle c'est Liverpool. Et quand il prend le bateau pour aller en Angleterre voir quelque chose, bah, ça va être Arsenal. Parce que c'est quand on habite au Havre ou dans le nord de la France, on prend le bateau, on arrive à Londres, et puis on regarde le truc, ah bah c'est Arsenal. Et du coup, on est supporter d'Arsenal. Puis après, il y a Wenger, Thierry Henry qui arrivent, etc., qui francisent encore un peu plus Arsenal. Mais de fait, voilà, ça, c'est parce que c'est des grosses références de culture assez très forte du football qu'on admire et qu'on voudrait pouvoir imiter. Si on est à Marseille, peut-être qu'on regardera du côté de la Juventus et de Milan. Donc ça, il y a beaucoup de Strasbourg, on ira du côté de l'Allemagne.
Alors c'est un cas aussi qui peut se retrouver dans le cyclisme où il y a beaucoup de supporters de coureurs étrangers, des Français ou des voilà, on s'accroche à un coureur. Le public du Tour de France, par exemple, il ressemble à quoi ? Très familial, on peut penser, mais
oui.
très international aussi.
Très international. Très international. Le Tour de France, spécialement le Tour de France. C'est-à-dire que vous prenez le Giro ou la Vuelta, ça va être le public espagnol ou italien qui sera là. Vous prenez le Tour des Flandres. Là, vous avez la Flandre, alors étendue à la Hollande, qui va arriver, qui va envahir les routes. Paris-Roubaix, on voit bien Paris-Roubaix. Les secteurs de Paris-Roubaix, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est des petites fêtes foraines un peu partout, etc. Puis les caravanes, et puis tout ça, etc. Et le Tour de France, alors lui, il est hyper international parce que, comme une Coupe du Monde de foot, il est pendant les vacances. Donc du coup, on peut aller suivre le Tour de France. Et il y a là-dedans, il y a des endroits qui vont être des endroits un petit peu magiques selon les nationalités. C'est vrai que pour les Hollandais, L'Alpe d'Huez, c'est une référence parce que c'est là où ils ont failli plusieurs fois pouvoir gagner le Tour de France, avoir des grandes vedettes. Pour par exemple, les Pyrénées vont être effectivement beaucoup beaucoup envahies par les supporters espagnols, les Basques, parce que souvent les équipes espagnoles étaient des équipes basques en fait à la grande époque, et même encore maintenant, hein, certaines équipes sont très très marquées régionalement. Bon, et voilà, donc le Tour de France a ses supporters, et ses supporters, ils font comme dans le foot. Vous alliez à Saint-Etienne à l'Euro 96, les Allemands, ils avaient installé des grands camps de caravanes, et les Hollandais, des grands camps de caravanes, ils étaient là, et puis ils faisaient les allers-retours entre les villes, et puis ils allaient retrouver leur camping-car, etc., et ils allaient voir les matchs. Et pour le Tour de France, on a le même phénomène d'installation massive de gens qui...
Et un public populaire aussi, la caravane, toute cette ambiance.
C'est un public populaire, c'est-à-dire que vous avez... Le Tour de France, c'est un grand... Voilà, ben c'est une grande fête foraine, quoi. Dans cette forêt, vous avez les coureurs, vous les voyez passer, même en montagne, vous mettez un virage et bon, ils sont un peu dispersés, donc on a un peu de temps, mais si vous êtes sur une étape de plaine, ça dure, allez, on va dire 30 secondes.
Voilà. Mais du coup, il y a toute la préparation.
Par contre, la caravane, elle dure un certain temps, et là, effectivement, c'est quelque chose de super marrant. Bon, je ne sais plus si elle est toujours, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une Tour de France, elle est toujours, mais je ne sais plus si elle... Mais avant, il y avait le motard Saint-Zano, les trucs comme ça, des tas d'attractions, les équilibristes sur moto, tout ça, c'était des trucs assez marrants. Hein.
Je vous propose de parler d'un autre sport. Est-ce que vous connaissez le kinball?
Ça, non. Non.
Eh bien, écoutez, vous allez le savoir, puisque je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de supporters dans les gradins du gymnase de Choisy pour y assister, mais un autre reporter tout terrain s'est rendu dans ce gymnase du 13e arrondissement de Paris pour s'immerger dans ce sport. C'est l'immersion du jour.
L'immersion de tête de vainqueur.
On est à Port de Choisy, donc dans le 13e.
Bonjour, je m'appelle Nils, j'ai 25 ans, je suis éducateur sportif et donc je pratique le kinball.
Là, ça fait 3 ans, c'est ma 4e année. Je commence à faire 3-4 entraînements semaine. Je vise l'équipe de France, on croise les doigts. C'est pas du tout connu. Les gens, ils ont des yeux énormes dès qu'on leur parle de kinball. On leur dit 1m20 de diamètre. Bon, quoi, c'est pas possible? Mais en fait, c'est vraiment un sport, c'est vraiment physique et on y retrouve beaucoup de choses que des autres sports dedans. De la cohésion d'équipe, parce qu'on laisse jamais quelqu'un sur le côté.
Le kinball, c'est un sport collectif qui se joue avec un ballon de baudruche rempli d'air d'1m22 de diamètre. Ça joue qu'en intérieur parce que le ballon est super gros mais rempli d'air, donc super léger. Donc si on joue à l'extérieur, le ballon vole et c'est pas possible.
Bah, l'entraînement est mixte tout simplement parce que y a pas nécessairement besoin de séparer garçons et filles. Les filles et les gars frappent pas forcément pareil, c'est bien de voir comment ils frappent, quelle est leur technique de frappe. Surtout pour les filles, c'est bien de s'entraîner avec des garçons, parce que, bon, ils frappent quand même un peu plus fort.
Est-ce que tu peux m'expliquer comment on frappe bien dans un gros ballon de kinball?
Alors la première technique, quand on débute, on frappe à deux bras. Du coup, le but c'est de se tenir les mains, tendre les bras et d'avancer vraiment avec son corps comme si on traversait la balle. Et après, quand on a déjà acquis cette technique-là, on peut frapper à un bras.
Pourquoi Omnikin?
C'est le nom de la marque du fabricant de ballons. À chaque fois, on va dire Omnikin, une couleur. Donc à chaque fois, on répétera sa marque. Il est malin, c'est fait la publicité à chaque frappe.
Sur un demi-terrain de hand, il y a 3 équipes en même temps sur le terrain. Dans chaque équipe, il y a 4 joueurs. Le but, c'est d'envoyer le ballon, d'appeler une équipe et qu'il ne puisse pas la rattraper. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un point de marqué.
Patrick Mignon, vous avez envie de vous mettre au kinball?
Oui, bah effectivement, parce qu'il faut trouver des sports adaptés à son âge. Alors, il y en a certains que je ne peux plus pratiquer, donc peut-être que celui-là, je pourrais le pratiquer.
Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, il y a 3 clubs de kinball en France, à Paris, Noisy-le-Grand et Cergy. Les championnats de France viennent de commencer et se dérouleront jusqu'à la fin décembre dans l'ouest de la France. On revient sur le sujet.
Il y a 3 clubs et il y a un championnat de France. C'est voilà, incroyable.
Un championnat, on va dire régional quand même, hein, parce que Noisy-le-Grand, Cergy et Paris.
Oui, même francilien, on peut dire.
Francilien, voilà. On va revenir un petit peu sur les supporters avec vous, Patrick Mignon. On parle beaucoup de violence dans les stades. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le sport entraîne de la violence ? Ou peut entraîner de la violence ?
Oui, ça s'est fait. Voilà, le sport, quand historiquement, notamment les sports collectifs et principalement le football, il s'est créé sur des territoires qui étaient des villes ou des quartiers. Bon, donc de ce point de vue-là, il est devenu assez vite la propriété de ce quartier. C'est-à-dire que les gens qui jouaient dans l'équipe étaient les gens de ce quartier ou de ce village. Et bon, c'est un secret pour personne que de dire que de quartier en quartier ou de village en village, il y a des vieilles rivalités qui, quand ce n'était pas au football que ça se jouait dans les balles populaires, dans les marchés, etc. Mmh. Où il y avait des querelles de village qui étaient liées la question des femmes, par exemple. Mmh. Hein, les mariages, les choses comme ça. Bon, et puis la virilité. L'honneur viril, genre quand on doit marquer son accès au statut de d'homme par sa capacité à affronter les autres. Bon, voilà. Donc ça c'est donc le foot, il s'installe là-dedans, comme le rugby s'installe là-dedans. Hein,
quand querelle de clocher.
Quand c'est pas du rugby qui est pratiqué dans les universités anglaises, bon chic, etc., classe supérieure, quand c'est pratiqué dans les villages de vignerons du sud-ouest ou du sud-est, là, je veux dire, vous avez effectivement, vous retrouvez bien les querelles de clocher. Donc voilà, le sport s'inscrit là-dedans. Donc il y a un potentiel de violence. Il n'est pas seulement violence, il y a un potentiel de violence. Bon, ce qui caractérise l'histoire du football, par exemple, si on prend ce cas-là, c'est qu'effectivement, il y a une violence assez forte au début. Parce que justement, on est vraiment dans la continuation de la querelle de crochet du bal de village. Par contre, petit à petit, on va voir que cette question, ça va s'effacer, parce que d'une certaine manière, il y aura un engouement, il y aura un soutien qui en France sera jamais aussi fort. Même en Angleterre, où il est très très fort, la violence dans l'entre-deux-guerres diminue très très fortement, elle disparaît quasiment complètement, et elle ne réapparaît que dans les années 60. Mmh. Voilà. Mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire, voilà, les années 60, hooliganisme, mais vous avez aussi Teddy Boys, Motts, Rockers, etc. Donc mm-hmm. vous êtes dans l'époque, effectivement, des sous-cultures juvéniles en Angleterre, dans lesquelles une des manifestations de ces cultures, c'est l'affrontement avec les autres, parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue sur la vie, etc. Alors, ce n'est pas nécessairement des supporters de foot, ces sous-cultures, mais on trouve dans les stades les mêmes principes de regroupement. Voilà. Hein, on a son territoire, qui est le pub, qui est la tribune et tout ça.
Est-ce qu'en France, par exemple, on a du mal à gérer cette violence ? Est-ce que je pense à ça justement parce qu'il y a beaucoup de supporters qui disent voilà, les réactions des pouvoirs publics, c'est l'interdiction du stade très rapidement pour plein de choses comme ça. Est-ce que c'est ça aussi qui empêche les pouvoirs publics et les supporters de dialoguer très rapidement ?
Oui, mais c'est tout à fait. Non, mais la France, moi j'aime bien comparer la France et l'Allemagne sur cette question. La France est très 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 peureuse sur la question, je veux dire pas de bruit, et donc on va prendre toutes les mesures, même si c'est pour pas grand chose, on va faire
des mesures de répression très rapidement.
En Allemagne, on a trouvé tas de systèmes finalement de concertation, de travail éducatif, si vraiment on a des gens très très violents, donc on pense qu'il faut faire des choses éducatives avec eux, etc. Donc on est dans des situations complètement différentes et on accepte en Allemagne un certain niveau de désordre.
Qu'on n'accepte pas nous
voilà.
En France.
Mais en même temps, c'est plus décontracté d'aller voir un match en Allemagne que d'aller voir un match à une époque au Paris Saint-Germain, ou même aujourd'hui avec les interdictions de stade.
Mais la Coupe du Monde de football en 2018 en Russie, on l'a vu, les supporters russes ont été particulièrement violents cet été, notamment à Marseille, on se souvient de ces images. Est-ce que c'est possible de réglementer un petit peu la violence à l'international ou d'anticiper une Coupe du Monde comme celle-là ?
À ce niveau-là, elle l'est beaucoup plus, parce que par exemple, on voit bien les Anglais, les Allemands font tout pour regarder chez eux ceux qui sont identifiés comme étant hooligans et violents, et ce qu'ils ont fait. Du côté de la Russie, là, cet été, en 2016, c'est d'autres aspects qu'on jouait. Voilà. Et je pense qu'en 2018, tout dépend qui sera qualifié, hein, bien sûr. Si les Ukrainiens sont qualifiés, bon, ça sera un petit peu compliqué. Enfin, il peut y avoir des complications, ou c'est les Polonais, etc. Mais voilà, non, on peut intervenir, c'est plus facile. Il y a pour deux raisons. Premièrement, parce que les pays concernés vont effectivement faire leur politique, en gros, de contrôle de leurs propres supporters violents. Donc ça, c'est un truc qui s'est mis en place petit à petit. Et deuxièmement, deuxièmement, parce que les déplacements de Coupe du Monde sont quand même très particuliers. Je veux dire, là, la Russie, c'est quand même assez loin. Il va y avoir un coût du voyage. Ensuite, les différentes cultures de supporters vont mettre plus ou moins de monde. Les Français sont très certainement très peu présents, en tout cas très, très minoritaires. Voilà, et tous ces éléments-là font que, du coup, le potentiel d'affrontement entre des groupes rivaux, eh ben, il va tomber, il va diminuer.
Très bien, merci beaucoup Patrick Mignon d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Vous pouvez rester avec nous puisque l'émission n'est pas finie, on parle des sports étudiants. Donc tout de suite, hein, ce sera avec Mickaël.
Bah, dis pas de conneries non plus. T'es gentil, me donne pas de leçons. Hein. Bon. Tu vas pas me donner des leçons. Hein. En plus, il se fout de ma gueule.
Une belle tête de vainqueur.
On passe au sport étudiant donc avec Mickaël et ce soir tu nous présentes le comité régional de sport universitaire de Paris.
Après vous avoir parlé le mois dernier de la FFSU, la Fédération Française du Sport Universitaire, j'ai décidé de me pencher pour cette émission sur le CRSU, comité régional du sport universitaire de Paris, en allant à la rencontre de ses deux directeurs, Emmanuel Driss et Gérald Deleu. Alors il faut savoir que les CRSU sont des associations de loi 1901, sous la tutelle de la FFSU qui leur délègue des compétences à l'échelle régionale. Le sport universitaire en Ile-de-France, c'est plus de 20 000 licenciés, et pour s'occuper de tout ce beau monde, il y a trois CRSU en Ile-de-France, celui de Paris, celui de Créteil et celui de Versailles. Le CRSU de Paris s'occupe administrativement d'une cinquantaine d'associations sportives implantées à Paris même, et à côté de ça, elle met en place, en collaboration avec les CRSU de Créteil et de Versailles, les compétitions de sport universitaire en Ile-de-France. En fait, les trois CRSU se sont répartis l'organisation des compétitions régionales par sport. Par exemple, le CRSU de Paris s'occupe des compétitions des sports de combat.
Et justement, pour faciliter la diffusion d'informations concernant ces compétitions, ils ont mis en place l'application mobile CRSU IDF.
Emmanuel Driss, qui a été professeur de basket au pôle universitaire Léonard de Vinci pendant 10 ans, connaît bien les problèmes d'organisation liés à un manque de communication. L'année dernière, il a donc développé avec l'aide d'une entreprise spécialisée l'application CRSU IDF. Pour la présenter, je vous propose de l'écouter.
Elle permet d'avoir les calendriers, les résultats des matchs en temps réel, la programmation des matchs sur les installations. Elle permet aussi d'avoir accès à sa licence dématérialisée, au plan des gymnases, au circulaire avec tous les règlements, donc tout ça dans le téléphone. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les contacts des adversaires. Donc quand on a un souci, on peut communiquer très rapidement avec ses adversaires. Et bon, j'espère que ça va être une aide pour nos étudiants, pour les profs, et que ça va améliorer la communication et la transmission des informations pour nos championnats et notre fonctionnement.
Alors le CRSU de Paris délivre également des formations d'arbitres pour les étudiants, Mickaël.
Pour arbitrer des matchs universitaires de rugby, il est obligatoire depuis plusieurs années d'avoir suivi une formation. Emmanuel Driss a cherché à étendre ses formations d'arbitres au handball et au basket. Il a donc mis en place, le mois dernier, une formation qui a rencontré un certain succès puisque plus de 120 étudiants y ont participé. L'objectif de cette journée était de sensibiliser les étudiants à des formations diplômantes pour qu'ils puissent arbitrer par la suite des matchs universitaires.
Et donc, qui sont les partenaires du CRSU de Paris ?
Alors, tout d'abord, il y a les partenaires dits institutionnels. La région Île-de-France, qui apporte des subventions, et la mairie de Paris, qui, en plus de subventionner, met à la disposition du CRSU des installations sportives. Sauf qu'en période de crise économique, les partenariats publics ne suffisent pas, et le CRSU de Paris s'est donc tourné vers des partenaires privés. Gérald Deleu nous présente l'un d'entre eux.
La Banque Populaire Rive de Paris, ACEF, qui est une banque corporatiste et avec laquelle on a établi des liens de confiance à travers une convention et des annexes bien précises. Et dans ce cadre-là, la Banque Populaire Rive de Paris, ACEF, nous aide, nous accompagne sur certains projets, notamment des projets transversaux qui sont liés au sport féminin, qui peuvent être liés également à la liaison sport scolaire, sport universitaire. L'an dernier, on a participé à des projets dans le cadre de l'année du sport de l'école à l'université, et puis d'autres projets comme le handisport, des thématiques qui sont un petit peu en vogue.
Et preuve que ce partenariat fonctionne à plein régime, la Banque Populaire Rive de Paris, ACEF, offre cette année aux étudiants franciliens qui ouvrent un compte chez eux leur première licence FFSU.
Et sinon, quelle est l'actualité du CRSU de Paris ?
Alors en ce moment, Emmanuel Driss et Gérald Deleu ont beaucoup de travail d'organisation car les compétitions universitaires ont repris hier. Sinon, le CRSU de Paris est associé à différents événements. Par exemple, ils étaient à la Fête de la Différence, organisée place Saint-Sulpice le 8 octobre dernier par la mairie du 6e et l'entreprise sociale Andiamo, spécialisée dans l'handisport. Pour l'occasion, le CRSU a permis à des étudiants pratiquant le basket fauteuil de faire des matchs avec l'équipe de France féminine qui avait atteint les quarts de finale aux Jeux paralympiques de Rio. Dans la continuité de cette manifestation, à noter qu'il y aura en décembre un gros tournoi de basket fauteuil à l'université Pierre et Marie Curie.
Merci beaucoup, Mickaël. On te retrouve le mois prochain. L'heure est venue pour nous de raccrocher les crampons, mais on se retrouve le 2 décembre prochain pour parler de l'e-sport. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, Patrick Mignon et toute l'équipe de Tête de Vainqueur, sans oublier notre réalisateur Rémi. Patrick Mignon, un dernier mot ?
Dernier mot, écoutez, très content d'avoir participé à cette émission. J'ai pas pu tout. Enfin, il y a plein de choses qui auraient été intéressantes, mais voilà.
Mais vous reviendrez.
Mais c'était bien, pas de problème.
Dans quelques secondes, La Souterraine sur Radio Campus Paris. Très belle soirée à tous. Comme chaque mois, on termine avec le zapping de la rédaction. C'est la minute qui reste.
T'as jamais eu d'appréhension avant de rentrer sur un ring? T'as jamais eu peur de prendre des coups, je veux dire?
La vie, elle fait plus mal que n'importe quel coup de poing dans la gueule. Hein. J'ai divorcé avec la mère de mes enfants, ça fait plus mal qu'un coup de poing dans la gueule. Hein. Après, t'as la sodomie fiscale aussi. Sodomie fiscale.
C'est un
sport national en France.
Emmanuel Lebesson, champion d'Europe de tennis de table. Vainqueur 4-7 à 1 de la finale face à un autre Français, Simon Gauzy. Le pongiste de Sévrien succède à Jacques Secrétin, dernier tricolore titré, il y a 40 ans.
Coach Jardin, pourquoi Monaco a besoin de jouer vendredi après un match de Champions League mardi?
Alexis Pinturo, désormais, Alex. C'est le dernier à s'élancer. Il a remporté la première manche. C'est le seul qui peut aller déloger Marcel Hirscher. C'est le combat des maîtres.
Et c'est le moment de s'imposer ici à Solden devant
41 Marcel Hirscher. Il est toujours là. Il est toujours là. Allez, désormais, c'est le plat final. Allez, sa position de recherche de vitesse. Alexis Pinturo qui va aller signer la première victoire. Bravo. De l'hiver.
C'est fini.
Et c'est fini.